Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, et oui, vous l'avez entendu, non pas dans la quotidienne, mais bien dans le pédalo, notre quotidienne d'infos qui reprend et bien ses couleurs estivales. Pour cette première émission, donc, on va remonter et bien le temps de quelques semaines, puisque le 8 mai dernier, Léo s'était rendu aux commémorations de l'autre 8 mai 1945, qui marque la date de massacre dans trois régions d'Algérie. Afin d'en savoir plus, Léo s'était ultérieurement entretenu avec Jacques Lambourg de l'association des appelés en Algérie et amis contre la guerre, et je vous propose qu'on écoute ça sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
Le 8 mai dernier, sur le pont Confluence d'Angers, se sont tenues les commémorations de l'autre 8 mai 1945, pas celui de la libération à l'issue de la capitulation allemande, qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, mais celui des massacres qui se sont déroulés dans trois zones d'Algérie, Sétif, Guelma et Kerata. Les commémorations sont en partie organisées par le Mouvement de la Paix et l'Association des Appelés en Algérie et Amis contre la Guerre, la 4ACG. Et pour discuter de tout cela, et plus largement de la mémoire du conflit algérien, on est en studio avec Jacques Lambourg, membre de l'Association des Anciens Appelés. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir.
On va prendre le temps de bien expliquer de quoi on parle. La France a commencé à coloniser l'Algérie en 1830. Des volontés d'indépendance se manifestent, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le 8 mai 1945, alors que l'Algérie fête la victoire dans la rue, les partisans de l'indépendance remettent sur le devant de la scène les promesses d'émancipation faites par le gouvernement français auparavant. Et pendant ces manifestations, on aperçoit des drapeaux algériens, des slogans nationalistes aussi qui se font entendre. Et tout bascule au moment où les autorités ordonnent d'ouvrir le feu sur des manifestants et un Algérien meurt. Un mouvement d'autodéfense se met alors en place face à l'armée française. Bilan de plusieurs mois d'affrontements, une centaine de morts côté européen et côté algérien, strict minimum 1000 morts, mais on monte parfois jusqu'à 45 000 selon les estimations. Alors Jacques, quel est l'intérêt des commémorations de ce massacre qui se tiennent chaque année à Angers, auquel tu prends part?
Ça fait 7 ans, enfin 7 ans ça compte déjà. J'ai fait un voyage en Algérie, un retour, et là j'avais jamais été dans les gorges de Kerata, et là quand j'ai vu dans les gorges de Kerata qu'on avait vidé des gens avec des... Comme on vide des baignoires dures, on a vidé des Algériens dans ces gorges, dont certains étaient encore vivants, comme on jette des déchets au fond d'un ravin. C'est émouvant quand même, et quand je suis revenu donc de ce voyage d'Algérie, j'ai dit qu'il faut faire quelque chose pour le 8 mai. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de temps, mais bon, à l'époque... Je fais partie du Mouvement de la Paix, et le Mouvement de la Paix organise tous les 21 septembre la Journée mondiale de la paix. Et on était à l'époque un collectif qui regroupait une trentaine d'associations. Maintenant, on est beaucoup moins nombreux, ce qui a permis de regrouper plus de 50, 60, je ne sais plus, minimum 50 personnes. Assez impressionnant. Voilà.
Vas-y, je t'en
prie. Voilà, pour moi, c'était un devoir. Un devoir de mémoire, ben surtout que je connais un peu l'Algérie et j'aime à dire que je suis un peu né là-bas.
Et on va discuter de tout ça plus en détail. Quel public se rend à ces commémorations? Plutôt des personnes âgées ou il y a des jeunes quand même qui viennent commémorer le 8 mai avec vous?
Disons que les jeunes, oui, sont quand même pas très nombreux. Mais c'est pratiquement depuis un certain temps, toutes les manifestations, nous on est habitués, les vieux, à ce qui est que des cheveux blancs. Bon, il se trouve que maintenant on constate avec plaisir, particulièrement pour les manifestations pour sauver le climat, que ce sont les jeunes qui sont vraiment majoritaires. Et d'ailleurs, tous les personnes de mon âge s'en plaignent, ils sont très contents, mais quand il y a une manif de jeunes, ils marchent tellement vite que nous, derrière, on n'arrive pas à suivre.
Alors, on s'était rencontrés aux dernières commémorations, hein, ce 8 mai. Vous avez posé de nouvelles plaques commémoratives sur le pont Confluence. Qu'est-ce qui est arrivé aux précédentes? Apparemment, elles sont arrachées. Comment ça se fait?
Elles sont arrachées des fois tout simplement par le mauvais temps, par le vent, la pluie, etc. Parfois vandalisées, parfois enlevées par d'autres personnes mieux outillées. Voilà. Et souvent, je les retrouve tordues, à moitié déchirées. Et donc, je les enlève à ce moment-là moi-même. Je complète le nettoyage.
Et pourquoi vous pensez qu'elles sont... Enfin, pourquoi tu penses qu'elles sont vandalisées, ces plaques?
Bah parce qu'elles ne plaisent pas à tout le monde. C'est pas un mystère quand même que le problème algérien en France, je dis bien en France, n'est pas encore digéré. Hein.
Vous êtes membre de l'association des anciens appelés en Algérie et amis contre la guerre. C'est ce que tu disais, tu es un petit peu algérien et c'est naturellement que tu as rejoint cette association?
Pas tout de suite, hein. Quand j'ai connu que ça existait, j'ai dit oh, encore une association de plus. Ça me paraissait aussi être une association un peu caricative, quoi. On va aider les Algériens, c'était ça le projet. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, mais enfin...
Quand est-ce qu'elle a été fondée, justement?
Il y a une démarche politique, avec un P majuscule, bien sûr, pas une politique de parti, de reconnaissance et qui est importante, et là j'adhère. Hein. Au début, ils ont débuté à 4-5. Hein. Et donc, elle existait depuis 2 ans, et déjà, on était au moins une cinquantaine hein, à l'Assemblée Générale. Et maintenant, c'est dans les 400. Quoi.
On va venir à présent à ton expérience en Algérie. Une petite biographie, tu as 83 ans, tu as grandi à Beaugency, une commune sur les bords de Loire, et tu étais habitué à l'époque au discours colonial type « l'Algérie c'est la France », et tu es allé contre ton gré en Algérie entre 1959 et 1961 dans l'armée de l'air qui était basée à Blida. Quelle idée tu te faisais de l'Algérie et du conflit qui s'y déroulait avant de partir sur place?
C'est pas tout à fait exact de dire je suis allé contre mon gré. J'avais possibilité de déserter. Enfin, d'être... À l'époque, c'était très dur. Hein. Donc j'ai pensé un peu de ne pas y aller carrément, de me soustraire. Et si j'y allais pas, un autre y allait à ma place... J'y allais avec une idée de pacifisme, avec une idée un peu complètement stupide, une idée d'enfant de cœur.
Et hein, qui n'était pas compatible avec
une idée d'enfant de cœur qui n'est pas du tout compatible avec la guerre. C'est-à-dire, si j'ai un Algérien au bout de mon fusil, je n'appuie pas sur la gâchette. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Donc je me suis retrouvé dans l'armée de l'air et j'ai fait la guerre d'Algérie sans m'en rendre compte. En démontant les hélices, en changeant les plaquettes de frein, d'ailleurs bonjour l'amiante, les pneus, et puis en lavant les avions, enfin et puis surtout en m'ennuyant beaucoup, 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 ce qui est présent là-dessus. Voilà.
Et tu as des connaissances dans ton entourage qui y sont aussi allés avec ces idées pacifistes où tu étais un petit peu à part finalement?
Il faut quand même dire qu'à l'époque, c'est un lieu commun, ça. On était tous conditionnés pour faire l'armée. C'était nos grands-pères, nos pères, les oncles, les aunts. Ma mère m'a souvent dit, vivement que tu partes à l'armée, ils vont te dresser là-bas. Parce que j'avais un caractère un peu revêche, un peu tête de mule. Bon. Voilà, mais... Donc, on pensait même pas à l'armée. C'est quand même ce qui m'a posé un peu le cas de conscience, c'est que ma mère, bien qu'elle n'était pas du tout pratiquante, c'est d'ailleurs curieux, elle était abonnée à Témoignages Chrétiens et elle nous lisait de temps en temps des articles de Témoignages Chrétiens. Donc c'est là que, oui, c'est autrement dans le milieu dans lequel j'étais, une petite ville de 3000 habitants, Beaugency, à l'époque j'étais catho, j'étais avec un clergé extrêmement conservateur, on commençait à ruer dans les brocards, parce qu'une fois on avait demandé à l'aumônier de nous faire de nous parler un peu de l'Algérie, et il avait été vraiment très Algérie française. pour vous donner un peu une, pour te donner un peu une idée de dans lequel c'était, une fois il m'avait dit, cet aumônier, il nous disait, si vous avez des problèmes, faut en parler, je suis là pour vous guider, pour vous aider. Et un jour, je lui ai tendu un article de témoignage chrétien, en lui demandant ce que lui, il en pensait. Il l'a pris du bout des doigts et me l'a rendu comme un papier merdeux, oui, en disant, je ne lis pas témoignage chrétien. Ça m'avait choqué, oui.
Et quelle était l'image qui était véhiculée de l'Algérie sur les bancs de ton école, si tu as des souvenirs, et dans la société à cette époque-là, dans les années 50?
On était les meilleurs. Hein. Je vais te dire une petite anecdote encore. Hein. Donc j'étais dans une église catholique et il y avait l'œuvre, je crois que ça s'appelait de la Sainte Enfance, je ne sais plus, un truc comme ça. Et donc, pour l'émission, je ne sais plus le nom, et il passait tous les ans dans l'école et il nous demandait, pour une petite somme d'argent, de pouvoir baptiser un petit noir en Afrique. La somme représentait à peu près le prix de quelques carambars. Et je trouvais, moi j'avais une dizaine d'années à l'époque, je trouvais quand même scandaleux que moi, petit garçon, avec le prix de quelques bonbons, j'ai le droit de donner un nom à un petit noir que je ne connais pas. Et ma mère nous donnait de l'argent sans rien dire. Enfin, elle faisait comprendre qu'elle n'était pas d'accord. Elle nous donnait aussi l'argent parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants se fassent remarquer, quoi. Et donc, voilà un peu la mentalité, quoi, de l'époque. On est les meilleurs, on apporte aux autres la civilisation. Et c'était comme ça. Hein, bon.
Tu es également attaché à la mémoire d'un autre événement, c'est le putsch des généraux. À nouveau, une petite explication. On est en 1958, en pleine guerre d'Algérie, hein, qui a commencé 4 ans plus tôt. Et le général de Gaulle revient à la tête de l'État français. Sa politique de l'Algérie est orientée autour de l'autodétermination, puis à terme pour se diriger vers l'indépendance du pays. Mais en avril 1961, 4 généraux, Zeller, Jouot, Challes et Salin, organisent un putsch à Alger en opposition à cette politique. Et plus précisément, Jacques, tu tiens à montrer la résistance qui existait face à cette prise de pouvoir par la force et rappeler la mort d'un homme, celle de Pierre Briand, lors de ces événements.
Oui, Pierre Briand, je ne connaissais pas. Hein, moi, c'est plusieurs années après le putsch que j'ai su qu'il y avait un gars de la radio, justement, qui avait été tué à ce moment-là. Et c'est cette année que j'ai cherché quand même son nom, sa mémoire, et que j'ai voulu l'honorer. Parce qu'il représente la résistance au putsch avant le discours du général de Gaulle. Et ça, on n'en parle jamais.
C'est dans un laps de temps très court. Hein, il y a 2 jours à peine.
C'est 36 heures. 36 heures, moi je les ai vécues très fort.
Comment tu les as vécues justement ces 36 heures? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Mais j'avais un copain que j'aimais beaucoup, d'ailleurs que j'ai repris contact avec lui, et qui m'a beaucoup aidé. J'ai souvent rencontré, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des personnes qui m'ont aidé. Hein. Et donc lui était ajusteur comme moi. Et par contre, il avait repris des études, il avait arrêté l'ajustage, bien sûr, et il était étudiant. Pour nous, les ouvriers, les étudiants, c'était des gens qu'on mettait un peu sur un espèce de piédestal au point de vue raisonnement et tout. Je me suis aperçu après que c'était pas forcément toujours vrai. Bon. Mais bon, on avait un peu ça, puisque nous, on avait que notre certificat d'études en poche. Voilà. Et donc, cet Albert, que j'appelais Bébert, m'a dit, ils vont prendre le pouvoir, et donc il faut agir. Et donc là, on est parti mettre de la peinture dans la nuit du 21 au 22 avril, mettre des slogans à la peinture du genre obéis à ton chef de Gaulle, etc. Et tout ça pour montrer qu'on n'était pas d'accord. Bien sûr, on a fait ça clandestinement, hein, parce qu'on risquait gros si on se faisait arrêter. Et ensuite, il y a eu la résistance dans notre groupe Anjou. Alors là, on ne savait pas ce que les autres faisaient. Hein. Faut se mettre dans l'ambiance. On a très peu d'informations. On a les informations de Radio Alger, que le général Chal a pris le pouvoir, etc. Et donc, on discute entre nous. Moi, j'étais dans le groupe Anjou. On était environ une centaine d'appelés. Hein. Et on apprend que notre commandant allait nous réunir. Alors, il réunit, bien sûr, dans l'ordre protocolaire, c'est-à-dire d'abord les officiers, ensuite les sous-officiers, et ensuite le menu frottin, les hommes de troupes. Ce qui nous a laissé le temps de discuter et de mettre une tactique d'accord. Et on s'est dit, il y en a un qui était assez politisé, je crois, bon, et qui a dit, je vous donnerai le signal. Et donc, il a tapé du pied, voilà. Et donc ça a été très rapide. Notre commandant s'est installé, visiblement très ému, et il nous a dit, messieurs, d'ailleurs ça nous a surpris, messieurs, on ne s'adressait pas comme ça à nous, ça nous faisait un peu, on se sentait adulte d'un seul coup qu'on nous appelle comme ça. Messieurs, je n'irai pas par quatre chemins, je suis aux ordres du général Chal. Et à ce moment-là, le coup de pied par terre. Et là, j'en garde quelque chose de très pressant. On s'est tous levés en silence et on est sortis. Et lui, il était médusé, il n'a pas pu dire un mot. Et après, on aurait pu être que tout seul à faire ça, c'est-à-dire que le groupe Anjou, on a appris que dans d'autres unités, ils avaient fait ça. Et j'ai appris par la suite que dans l'aviation, au moins dans l'aviation dans ceux que je connais, ça s'est passé à peu près comme ça partout. C'est-à-dire avant le discours du général de Gaulle. Faut quand même se mettre dans la tête qu'à l'époque, donc quand ça vient d'arriver, on ne sait pas qui va gagner. C'est un bras de fer entre le général de Gaulle et
le général Chal.
Et donc les 36 heures de silence, c'est difficile. On comprend bon que par exemple, j'ai appris par la suite que de Gaulle le savait quelques jours avant même. Bon, mais au moins il le savait au moins en même temps que nous, et donc il aurait logiquement parlé le soir même, hein, si ce n'est pas l'après-midi, le soir même, mais il a attendu le lendemain, le dimanche soir, 36 heures de silence, 36 heures dans l'incertitude, 36 heures à ne pas savoir comment ça allait se passer, qui allait gagner, hein. Et donc, ces 36 heures sont complètement occultées, et ce qui n'était pas tolérable pour l'armée, c'est que les soldats s'organisent sans leur chef hiérarchique. Et dans il fallait rétablir la hiérarchie après. En ce qui me concerne, je crois que ça serait très très mal passé. Je n'aurais pas pu obéir à n'importe quel chef. Après le putsch d'Alger. Et donc ils nous ont libérés juste après le putsch. Il y a ceux qui étaient partisans du putsch, et l'immense majorité après, c'était des attentistes. C'est-à-dire, ils attendaient que le vent tourne, et après, au moment du... Après le putsch, d'ailleurs, je le décris dans mon... On a fait des trucs ridicules, hein, comme un commandant qui nous demande les parachutistes sont là, je veux pas qu'ils touchent à mes avions, vous allez vous mettre en rond en vous donnant la main autour des avions pour les protéger.
36 heures particulières.
Oui.
Effectivement.
Non, ça c'était ce que je dis là, la ronde c'est après le discours du général de Gaulle, hein. Avant c'était pas ça du tout, c'était rien. Ou alors des officiers qui nous disaient blanc, et une heure après disaient noir, et ça changeait tout le temps, quoi.
Et moins d'un an plus tard, l'Algérie sera indépendante. On va terminer cet entretien, Jacques. En octobre 2020, je m'étais entretenu avec une historienne qui s'appelle Raphaël Branche, spécialisée des questions d'Algérie et de mémoire, à l'occasion de la sortie de son livre qui s'intitulait « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» Et elle s'interrogeait sur les raisons qui ont fait que de nombreux anciens combattants se sont tus sur ce qu'ils avaient vu et avaient fait en Algérie. Comment est-ce que toi tu expliquerais ce silence, et est-ce que c'était ton cas quand tu es rentré d'Algérie ?
Non, moi, c'était plutôt le contraire. Hein. Bon, bien sûr, je dois le dire, dans l'armée de l'air, évidemment, on a fait très peu d'opérations. Une fois, j'étais de patrouille au Bousbir, c'était le quartier réservé, autrement dit le bordel. Et ça s'est assez mal passé. Et à la fin, j'ai hésité. Mais bon, on avait notre certificat d'études, faisait plein de fautes. Et quand on nous demandait d'écrire, pour nous, c'était terrible. Mettez-le par écrit. Et donc, il fallait remplir le cahier à la fin. Et donc, le sergent qui était avec moi, mon chef, le chef supérieur que je ne connaissais pas quand on faisait des patrouilles, voilà, il marque RAS, il dit « Caporal, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?» Là, j'hésitais et j'ai marqué ce qui est le titre d'un film, j'ai marqué RAS, c'est-à-dire « Rien à signaler ». Et ça me pèse, oui. Mais bon, ça c'est une journée. Mais quand je suis revenu, j'ai bien sûr parlé du putsch d'Alger, parce que pour moi, c'était quelque chose de très important. Hein. Et même mes parents, enfin, personne n'y a fait attention. C'était le truc du général de Gaulle, le discours.
Ça n'intéressait pas forcément la France à ce moment-là.
Oui, oui, c'était...
On voulait passer à autre chose.
C'était du passé, on passait à autre chose, et voilà. Et donc après, il y a eu la loi d'amnistie, dont j'en ai pas parlé. Et après, j'en ai parlé parce que j'ai vu que les gens d'en face, c'est-à-dire les anciens de l'OS et tout, ils se gênaient pas pour en parler. Bien que normalement, il y avait une loi d'amnistie qui disait que on devait même pas parler de cette période-là.
L'histoire et la mémoire sont des questions éminemment politiques et le passé français en Algérie n'y échappe pas. En 2005, l'ambassadeur français en Algérie déclarait que les massacres de Sétif étaient inexcusables. Le président Hollande a désigné le système colonial comme étant extrêmement brutal. Et enfin, Emmanuel Macron a fini, lui, par désigner la colonisation comme étant un crime contre l'humanité. Dernièrement, l'historien Pierre Nora a rendu un rapport sur ces questions mémorielles et estime que la France ne devrait pas s'excuser du passé qui la lie à l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Ne pas s'excuser, ben, si, moi je suis au contraire pour... alors, à ce qui paraît que c'est un péché, de la repentance. On a, évidemment, après les explications que j'ai données, c'est intolérable. Les massacres qu'il y a eu à Sétif, Guelma et Kerata, la façon dont ça s'est passé, qu'on a brûlé les gens dans des fours crématoires après, et qu'il y a des gens qui ont fait ça, donc des militaires, certains étaient d'anciens résistants, ça veut quand même dire quelque chose, c'est qu'on ne considérait pas ces gens-là vraiment comme des hommes. Ils étaient des êtres inférieurs. C'est ça le nœud. Quand on parle de la colonisation, l'exploitation du Burnou, etc., moi ce que je ressens, et je pense que c'est le nœud du problème, c'est que les Algériens étaient considérés comme des sous-hommes. J'ai connu Marcel Régui, qui justement est un homme qui m'a beaucoup influencé aussi, un Algérien, qui a eu deux frères et une sœur tués à Guelma. Il n'en a jamais parlé. Simplement, ce qu'il m'a dit une fois, il m'a dit « Écoute, Jacques, il m'a expliqué pourquoi il avait enseigné en Tunisie. » Donc, il est devenu enseignant, professeur de français, amoureux de la langue française, beaucoup. Hein, et comme quoi on peut être francophone. Mais amoureux aussi de la France, mais pas de ses péchés. Hein. Et donc, il m'a dit, je suis allé enseigner en Tunisie, parce qu'en Tunisie, qui était indépendante à l'époque, j'avais le statut d'étranger. En ayant le statut d'étranger en Tunisie, eh bien, j'avais un statut supérieur de celui d'Algérien dans mon propre pays, l'Algérie.
C'est quelque chose.
Oui, c'est quelque chose de très fort.
Eh bien écoute Jacques, merci d'être venu en studio pour discuter de ces questions de mémoire des massacres de Sétif et de toi, ton rapport à l'Algérie. Si tout cela vous intéresse, vous pouvez trouver des informations sur Jacques Lambourg ou encore l'association des anciens appelés en Algérie et contre la guerre, également sur internet. Et vous pouvez évidemment vous rendre aux commémorations des 8 mai à Angers et également le 21 septembre, jour de la paix mondiale avec oui. Le mouvement de la paix.
Et cette année, on compte bien aussi, comme c'est le cinquantenaire, commémorer le 17 octobre.
Et oui, la manifestation...
Il y a eu le début de la guerre d'Algérie avec les massacres de Sétif et le 17 octobre, ce sont les Algériens
oui,
qui
les noyés
en
de la
France
Seine,
qu'on
oui.
a jetés dans la Seine.
Les noyés de la Seine,
voilà.
Effectivement. Mmh. Et bien, peut-être qu'on reparlera de tout ça à ce moment-là, au mois d'octobre. Encore merci Jacques, et à très bientôt ma foi.
Merci bien.
Et un grand merci à Léo pour cette interview et pour toutes les autres qu'il a réalisées au cours de la saison. On se retrouve quant à nous après un morceau d'Amen Malek, un des plus grands compositeurs contemporains algériens. Un morceau retravaillé par le DJ Flaco. Il s'agit de la Tape 12 Track 1. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier pédalo de la saison estivale. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dès demain. Très belle soirée ensoleillée sur les ondes du 103 FM. Ciao.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.